Voici une question dont la réponse va sûrement en surprendre plusieurs. Est-ce que Marie, mère de Jésus, était supérieure aux autres femmes? La parole de Dieu va remettre les pendules à l'heure à ce sujet, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a beaucoup de questions aujourd'hui. Ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu va répondre à chacune d'entre elles. Alors les voici. Est-ce que Dieu oublie les serments qu'il fait? Comment une personne démontre-t-elle qu'elle a reçu le salut de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu seul est suffisant pour nous donner la force de faire face à la vie? Est-il normal qu'un croyant ait besoin d'alcool pour être joyeux? Quel fossé devons-nous combler avant d'essayer de combler celui des générations? Est-ce que Dieu nous parle par sa parole? Est-ce que Marie a vraiment conçu par l'action du Saint-Esprit? La Bible nous enseigne-t-elle à voir Marie comme étant au-dessus des autres femmes? Est-ce que Jésus est Dieu? À qui Dieu s'adresse-t-il quand il dit « ne crains point »? On a beaucoup de bonnes questions aujourd'hui, mais je suis certaine que la parole de Dieu va de nouveau être très fidèle dans les réponses qu'elle va nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Oh oui, Seigneur, on a beaucoup de questions et on veut que tu mettes ta lumière sur chaque point d'enseignement que tu désires nous donner aujourd'hui. Aide-nous à bien comprendre ce que tu vas nous enseigner. Aide-nous à le retenir, à l'appliquer dans nos vies. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons introduit l'Évangile selon Luc. Vous avez remarqué que Luc donne beaucoup de renseignements historiques. Il place le Seigneur Jésus dans le temps. Il a quitté sa gloire, il est venu de l'éternité pour vivre dans le temps. Jean a exprimé cette vérité ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Jean chapitre 1er, verset 1er ainsi que verset 14. Luc, qui est médecin et un scientifique, a abordé le sujet d'une autre façon. Il est un homme instruit, qui était l'ami intime de l'apôtre Paul. Donc, Luc et Jean exprimeront la même vérité d'une façon très différente. Luc place l'arrivée du Seigneur Jésus à un moment précis de l'histoire universelle. Chers amis, débutons notre lecture. L'Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Dieu brise au-delà de 400 ans de silence. Si tous les événements des Évangiles étaient placés en ordre chronologique, celui-ci serait le premier. C'est Luc qui recule le plus loin dans l'histoire de la vie de Christ. Il va jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, au moment où l'ange Gabriel annonce à Zacharie qu'il aura un fils alors qu'il faisait le service du temple. Les parents de Jean s'appelaient Zacharie et Élisabeth. Zacharie signifie « Dieu se souvient » et Élisabeth signifie « son serment ». Ensemble, les deux noms font Dieu se souvient de son serment. Quand Dieu a-t-il prêté serment? Nous trouvons le serment de Dieu dans le psaume 89, versets 34 à 37. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. » Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Dieu a juré à David qu'un de ses descendants siégerait éternellement sur son trône. Dieu se souvient de son serment. Dieu se manifeste de façon spéciale après 400 ans de silence. La Bible nous dit que Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu. De quelle façon l'étaient-ils? Ils se sont reconnus pécheurs et ils ont offert des sacrifices pour leurs péchés. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Leur manière de vivre confirmait leur salut. Lorsqu'ils péchaient ou commettaient une faute, ils offraient les sacrifices prescrits. Cependant, le fait qu'ils n'aient pas eu d'enfant était tragique. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Être sans enfant était une honte pour une femme d'Israël à cette époque, et c'était le cas d'Élisabeth. Zacharie était un prêtre de la tribu de Lévi et devait servir dans le temple. Verset 8 à 12. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Zacharie servait à l'autel des parfums, le lieu de prière. C'était le sacrifice du soir, et les fonctions de Zacharie consistaient à offrir le parfum sur l'autel. L'ange lui est apparu soudainement. Il fit ce que nous aurions fait à sa place, il eut peur. Verset 13. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Zacharie et Élisabeth priaient pour un fils, car l'ange dit au prêtre, « Car ta prière a été exaucée. » Versets 14 et 15. « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. » Le fils du couple devait être un Nazaréen. Un Nazaréen s'engageait par serment à ne pas consommer d'alcool. Sa seule source de joie était le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Que votre source de joie soit le Seigneur, et non la bouteille. » Nous avons beaucoup de bébés à la bouteille de nos jours, et je ne parle pas d'un poupon dans sa couchette. Je parle de bébés adultes, assis à un bar sur un tabouret. Trop de chrétiens ont besoin d'un verre pour faire face à la vie. Nous devons nous rendre compte que seul l'Esprit de Dieu peut nous donner la force afin de faire face à la vie. Versets 16 et 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean marchait avec l'Esprit et la puissance d'Élie, mais il n'était pas Élie. Jean ramènerait le cœur des pères vers les enfants. Jean comblerait le fossé entre les générations. En fait, notre véritable problème n'est pas le fossé qui sépare les générations, mais le fossé qui sépare les adultes de Dieu. Si les adultes avaient une relation saine avec Dieu, ils n'auraient pas tous les problèmes qu'ils ont avec les jeunes. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? » « car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. Devons-nous rire ou pleurer en lisant cela? Nous avons ici un homme qui a prié Dieu avec son épouse afin d'avoir un enfant. Un ange lui apparaît et lui dit que sa prière est exaucée. Que fait Zacharie? Il répond, « À quoi reconnaîtrais-je cela? » Il ne croyait vraiment pas que Dieu répondrait à sa prière. Chers amis, priez-vous de cette façon? Une belle prière mécanique, sans vraiment croire que Dieu l'exaucera. Ceci explique pourquoi nous avons peu de réponses à nos prières. Nous prions sans foi. Zacharie est très humain, et je ne peux m'empêcher de rire car il m'arrive de prier ainsi. Verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Dieu a mis son sceau sur sa parole. La parole de Dieu a de l'autorité. Ce que disent Régent et Caro n'est pas important. Par contre, ce que la Bible dit l'est. Dieu nous parle par sa parole. Verset 20. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Zacharie, qui a trop parlé, sera muet pendant un certain temps. Les incrédules devraient se taire plutôt que d'afficher leur incrédulité. Un incrédule n'a rien à dire sauf de vains discours. Que celui qui croit que Dieu a quelque chose à dire parle. Versets 21 et 22. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Il y a de l'ironie dans ce passage. Zacharie est le premier à recevoir une révélation depuis 400 ans. Il ne peut répéter le message reçu de Dieu, car il est muet à cause de son incrédulité. Essayez de vous imaginer les gestes et les mimiques que Zacharie a faites pour essayer d'expliquer ce qui s'est produit devant l'autel des parfums dans le lieu saint. Ce devait être tout un spectacle. Versets 23-25. Lorsque ses jours de service se furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Zacharie ne pouvait pas parler. Élisabeth devait déborder de joie à cause de l'enfant qu'elle attendait. Elle vivait en recluse. Imaginez combien de fois Zacharie s'est fait dire, « Mon chéri, nous allons avoir un enfant. Chéri, je suis enceinte. » Versets 26 et 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Maintenant nous changeons de scène. Nous nous rendons de Jérusalem à Nazareth. Il y a maintenant 6 mois que l'ange a parlé à Zacharie. Maintenant, il apparaît à Marie. Le texte mentionne que Marie était vierge à 2 reprises. Ce détail est important, car l'enfant qui naîtra sera Dieu fait chair. Le Fils, qui sera aussi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, devra être sans péché. Donc, il ne pouvait pas provenir de naissance naturelle. Marie conçut par l'onction du Saint-Esprit. Je n'ai pas d'objection si un non-croyant n'accepte pas le fait que Marie était vierge au moment où elle a conçu du Saint-Esprit. Cependant, j'ai un problème s'il affirme que la Bible n'enseigne pas cela. Celui qui pense que la Bible ne l'enseigne pas a besoin d'apprendre à lire. Luc était un médecin qui a fait des recherches et il a rédigé un récit très précis. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Les protestants hésitent à faire ressortir le rôle important de Marie, mais ce verset nous dit qu'elle avait la faveur de Dieu. Marie est bénie parmi toutes les femmes, mais pas bénie au-dessus de toutes les femmes. Marie ne fut pas élevée au-dessus des femmes, mais elle éleva la féminité. On reproche souvent à la femme d'avoir fait entrer le péché dans le monde, mais c'est une femme qui a aussi fait entrer le Sauveur dans le monde. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie ne comprend pas le sens de la salutation de l'ange. Lorsque le surnaturel et le naturel se rencontrent, il est normal d'avoir peur. Je pense que si l'un d'entre nous voyait un ange, il aurait peur. Pas d'un ange envoyé de Dieu, mais de l'effet de surprise. Versets 30 à 33. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Le français de ce texte est clair et précis. On ne peut mal l'interpréter. Ce texte est littéral. Ceux qui nient la conception par le Saint-Esprit ne croient pas non plus que Christ siégera sur le trône de David son père. Tous avaient compris que le texte de Luc devait être interprété littéralement. Christ règnera sur la maison de Jacob, et son royaume sera éternel. Ce royaume est réel. Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Marie fut la première personne à se poser des questions au sujet de donner naissance à un enfant alors qu'on est vierge. Elle a demandé, « Comment cela se fera-t-il ? » La question est honnête. Luc cite l'ange Gabriel qui lui a répondu. Verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Aucun homme n'a participé à la conception de Jésus. Nous avons appris dans le livre du Lévitique que la naissance d'un enfant rendait une femme impure, parce que l'enfant auquel elle avait donné naissance était un être pécheur. Marie apprend qu'elle ne donnera pas naissance à un pécheur, mais à un être saint. L'union d'un homme et d'une femme ne peut que produire un être pécheur. C'est au moyen d'une vierge que Dieu pouvait faire pénétrer son Fils saint et sans péché dans l'humanité. Le roi David a dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le psaume 51, verset 5. Le bébé sera appelé Fils de Dieu, car c'est ce qu'il est. Luc est arrivé à cette conclusion à la suite de recherches. Il a rencontré des témoins oculaires et il a voyagé avec l'apôtre Paul. Luc et Jean sont arrivés à la même conclusion. Jésus est Dieu. L'approche de Luc est plus simple que celle de Jean. Si nous ne pouvons pas comprendre son message, peut-être faudrait-il revoir les rudiments de la lecture. Encore une fois, nous voyons que la Bible est ancrée dans l'histoire. Luc précise que les événements qu'il raconte se sont déroulés sous le règne d'Hérode, roi de Judée. Donc, ceci se passe dans un contexte historique précis. Zacharie était de la classe d'Abia et Élisabeth, une descendante d'Aaron. Ces informations provenaient de registres généalogiques. La Bible relate des événements historiques dont nous retrouvons des traces. Lorsque Dieu a parlé au moyen d'un messager, le mot grec pour messager est angelos. Dieu employait souvent des anges comme messagers. Gabriel brise 400 ans de silence avec ces mots « ne crains point ». Nous sommes dans une période de grâce et nous n'avons pas à craindre la parole de Dieu. Celle-ci révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu offrir sa vie en rançon pour nos péchés, afin que nous puissions recevoir gratuitement la vie éternelle. Ne crains point. Voilà les premiers mots de Dieu, encore une fois pour toi aujourd'hui. L'heure n'est pas à la crainte, mais à la miséricorde et au pardon. Chers amis, Dieu vous invite à revenir à lui. Dieu nous invite à nous approcher du trône de la grâce. Le Fils est venu chercher ceux qui étaient perdus pour les amener au Père. Un jour, Christ reviendra. Cette fois, il portera une tunique de juge. Ce sera terrifiant pour ceux qui auront refusé sa grâce. Mais aujourd'hui, vous qui écoutez cette émission, Dieu vous dit, ne crains point. Dieu a brisé 400 ans de silence pour manifester sa grâce infinie, son immense miséricorde et son amour éternel. L'ange a annoncé à Marie que l'enfant auquel elle donnerait naissance serait appelé Fils de Dieu et qu'il régnerait éternellement sur le trône de David, son père. Cet enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Si seulement nous étions davantage conscients des richesses de Christ et de notre extrême pauvreté, nous nous empresserions d'aller à lui. Cher ami, Dieu t'invite à te rapprocher de lui. Une grâce t'est offerte à l'instant même. Pourquoi demeurer éloigné et séparé de Dieu? Il s'est rapproché de toi. Il est venu jusqu'à toi. Il s'est fait petit enfant. Il a grandi. Il a accompli un ministère. Il a fait l'œuvre que le Père lui a demandé d'accomplir, c'est-à-dire le seul et unique moyen par lequel tu peux t'approcher de Dieu, par lequel un pécheur peut être pardonné et sauvé. Par le sacrifice unique de Jésus-Christ. Il t'ouvre maintenant les portes du ciel. Il t'invite à emprunter un nouveau chemin, à passer par cette voie qui peut te conduire directement en la présence de Dieu. Dieu parle aujourd'hui. Dieu t'invite. Dieu te montre une voie à suivre. Il te montre une direction. À toi de t'y engager, d'emprunter cette voie, d'y faire un pas par la foi, de t'y engager et de dire « Oui, Seigneur, c'est ce que je veux pour ma vie, que je puisse entendre ta voix, me laisser diriger, guider par toi, toi le seul Dieu vivant et véritable. Je me confie en toi. » Dès aujourd'hui, dès maintenant, si tu veux faire ce pas, dis à Dieu que jusqu'à maintenant tu regrettes d'avoir vécu sans lui et que maintenant tu te tournes vers lui afin de le reconnaître comme sauveur et seigneur de ton existence. Chers amis, prochaine émission, Luc chapitre 1er, versets 36 à 80.
Merci beaucoup, Régent. Je me suis régalé de tout ce bon enseignement qu'on a reçu de la parole de Dieu aujourd'hui. Et en plus, ça s'est terminé par une phrase que Dieu dit à tous ceux qui lui appartiennent à certains moments de leur vie. Pour ma part, mes amis, je peux vous dire qu'il me l'a répété souvent dans diverses situations. On sait que Dieu nous parle par la Bible. C'est pour ça qu'on la nomme la parole de Dieu. Cette phrase que Dieu me répète si souvent, c'est « ne crains point ». Je ne suis pas fière d'avouer qu'il est souvent à me répéter ça, mais je suis très heureuse qu'il me le rappelle. Dieu nous dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, à plusieurs reprises dans sa parole. Ça doit être parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi. Ça me console un peu. Le verset que j'ai retenu à ce sujet, c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, verset 10. Je n'ai pas besoin de vous le lire, je vais vous le citer par cœur. En passant, il est bon d'apprendre des versets par cœur. Comme ça, quand on en a besoin, ils nous reviennent à la mémoire, juste au bon moment. Quand j'entends ce verset dans mon cœur, j'entends une voix de papa aimant, Dieu mon Père qui m'aime tant. Voici ce qu'il me dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Avez-vous remarqué que Dieu ne dit pas « Je serai avec toi, je te fortifierai, je viendrai à ton secours, je te soutiendrai de ma droite triomphante » Bien non, il dit tout ça au temps présent. C'est sûrement parce qu'il sait qu'au moment où il me rappelle ses paroles, j'ai besoin qu'il soit avec moi tout de suite, qu'il me fortifie immédiatement, qu'il vienne à mon secours sans tarder, qu'il me soutienne au moment de l'épreuve. C'est extraordinaire d'être fils ou fille de Dieu. Du Dieu vivant, ce grand héros infaillible qui est toujours là pour nous secourir, pour nous dire « Ne crains rien car je suis avec toi ». Mon ami, est-ce que Dieu le Père est ton Père? Est-ce que son Fils Jésus est ton Sauveur personnel? Sinon, aimerais-tu qu'il le devienne? Aimerais-tu que Dieu soit là à te dire « Ne crains rien, car je suis avec toi » Aimerais-tu goûter à sa présence? Savais-tu que c'est le péché qui t'empêche d'être en communion avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu? Dieu savait que tu serais un pécheur, mais a pourvu un grand moyen. Ce moyen, c'est Jésus. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui a donné en pur don pour toi, pour moi. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Dieu va pardonner tes péchés. Accepte Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et il va le faire, c'est certain. Dieu y tient ses promesses. Il savait que tu serais un pécheur perdu. Alors, prends le moyen qu'il te donne pour revenir à lui, pour l'avoir comme soutien, comme roi pour l'éternité. Reçois Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, maintenant.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.